19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, bienvenue, toujours un plaisir, on démarre cette semaine. Eh bien pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, plus que jamais nous sommes ensemble jusqu'à 20h et nous allons au programme vous proposer un certain nombre de choses. D'abord nous allons parler d'un ouvrage, L'argument qui tue, ça c'est maître Philippe-Henri Honegger qui nous sort un dernier ouvrage. Débat, entretien, présentation, les meilleures techniques pour convaincre. Ben, pour les amateurs de maître Philippe-Henri Honegger, vous connaissez le personnage, je peux vous dire que quand vous lisez son livre, vous avez tout saisi. Et bien dans une poignée de minutes, il est avec nous et en direct. Ensuite, après direction, nos débatteurs influenceurs. Nous parlerons, vous savez quoi, de toutes ces manifestations pro-palestiniennes qui sont parfois interdites. Alors, nous allons poser la question, l'interdiction des manifestations à Paris, pourquoi elles sont systématiquement validées par la justice, pour quelles raisons le préfet de police les interdit, on en parlera avec nos débatteurs influenceurs. Gérald Darmanin, qui lui dénombre 819 actes antisémites. On en parlera aussi. Alors, quel type d'actes antisémitisme? Est-ce que les gens passent à l'acte? Ou est-ce que nous sommes concernés par ces 819 actes antisémites depuis le début de ces attaques? Certains n'ont pas encore franchi. Enfin, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça, il ne faut pas opposer les uns avec les autres. Vous savez, c'est aussi le rôle des informés sur Beurre FM. Le risque de tension en France, vous le savez, plus que jamais d'actualité. Je fais référence au conflit israélo-palestinien avec l'instrumentalisation et la radicalisation, tout simplement, sur les réseaux sociaux qui devient accru. Nous en parlons avec nos débatteurs, mais vous aussi, au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Maître Philippe-Henri Honegger, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, et ben ça va super, comme toujours.
Vous avez plaisir de vous retrouver, vous nous manquez, vous, pour le Quoi de Neuf.
Eh oui. Bah moi aussi, vous me manquez.
Bah oui, alors vous nous avez sorti un tout nouveau ouvrage qui s'intitule L'argument qui tue. Ah, ça, oui. ça vous ressemble. Pour quelle raison? Vous êtes pénaliste, hein, rappelons-le, c'est votre métier.
Exactement, je suis pénaliste.
Et un pénaliste, c'est fait pour convaincre.
Et moi, au quotidien, bah, mon métier, c'est de convaincre. Alors, j'ai été contacté par la maison d'édition qui a édité le livre, qui s'appelle Debuck Édition, et qui a voulu faire un livre, pour le coup, qui est très grand public. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas juste d'expliquer aux avocats comment convaincre, mais plutôt de pouvoir donner des techniques au grand public, c'est-à-dire, vous savez, l'étudiant qui veut passer l'entretien du grand oral, les gens qui veulent passer un entretien d'embauche, vous voulez, je sais pas, négocier avec votre patron une augmentation, ou même au quotidien, vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup de débat au cours de la question israélo-palestinienne ou plein de débats d'actualité, comment réussir à mieux communiquer? Comment réussir à mieux faire passer ses idées auprès des gens à qui on s'adresse et puis réussir à les convaincre pour les amener à adhérer à ce à quoi on pense? C'est toutes ces petites choses pour lesquelles j'ai écrit ce livre, dans lequel j'ai mis toutes les techniques que j'utilise moi au quotidien dans mon métier et puis que j'ai pu réunir dans 2500 ans d'histoire de ce qu'on appelle la rhétorique, mais surtout de les mettre au goût du jour pour que ça soit le plus adapté, le plus accessible et le plus simple à utiliser pour les gens qui vont lire le livre.
Et pour quelle raison d'ailleurs, maître Honegger, vous avez décidé de même poser ça via un ouvrage? Pour quelle raison? Vous aviez besoin d'exprimer cette façon de rhétorique? Vous aviez besoin d'en parler? Vous aviez besoin de le partager au grand public?
Moi, au départ, j'ai vraiment été contacté par cette maison d'édition qui m'ont peut-être écouté dans votre émission de radio et qui se sont dit « Ah lui, alors vraiment, il est très convaincant, on va lui demander comment il fait ». Au départ, ça m'a surpris un peu. Et puis, en fait, en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que c'était assez essentiel. C'est-à-dire que tout le monde, dans la vie de tous les jours, communique, parle, essaie de dire des choses aux gens avec qui il est en contact. Et que... il y a quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, qu'on nous apprend plus à l'école, c'est comment bien communiquer, comment bien exprimer ses idées à l'oral ou à l'écrit, alors qu'il y a énormément de techniques qui existent. Vous savez que jusqu'à la fin du 19e siècle, la classe qui correspond aujourd'hui à la première s'appelait la classe de rhétorique. C'est-à-dire une classe où pendant une année, on apprenait à tous les étudiants de France comment bien exprimer vos idées, comment bien communiquer au quotidien.
C'est important la rhétorique ? C'est important la rhétorique ?
Mais c'est important pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne nous apprend à communiquer, simplement à exprimer les idées qu'on a envie d'exprimer, alors que c'est fondamental. Donc on est tous un peu amateurs dans la manière dont on parle et dont on communique avec les gens. Et avec ce livre, bah, je donne toutes ces techniques qui sont pas très compliquées, mais qui permettent juste de mieux formuler ses idées, de mieux forger des arguments, et puis ensuite de mieux les exprimer de manière plus efficace. Et puis ce que ça permet aussi, et qui me semble pas négligeable, c'est que quand on connaît ces techniques, quand on maîtrise un peu ce monde de la rhétorique,
ah bah moi j'aime bah beaucoup
on peut
en tout cas
comprendre.
En tout cas, j'aime beaucoup votre ouvrage parce qu'il se lit très bien et vous parlez notamment de la crédibilité, vous parlez aussi de l'émotion. Vous pouvez nous en toucher quelques mots justement, la crédibilité, vous dites c'est pour réveiller l'attention. Et c'est ça, vous dites, voilà, on a tendance à croire les personnages auxquels, je lis quelques passages hein, d'ailleurs, qu'il est toujours nécessaire quand il y a plein de sujets sur lesquels vous l'exprimez sans expertise, de simplement en étant bien préparé. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de crédibilité justement, que c'est une clé pour réveiller l'attention.
C'est cette idée que dans la rhétorique, si on veut convaincre quelqu'un, il y a trois clés qui permettent de convaincre. La clé la plus évidente et à laquelle tout le monde pense, c'est les mots, le langage, le message que vous voulez exprimer. Mais finalement, ce qui a été découvert avec le temps, et notamment avec des découvertes scientifiques, c'est que ce qui va permettre de convaincre les gens, c'est pas simplement les mots, et parfois c'est même marginalement les mots, c'est l'émotion qu'on y met, l'investissement, la conviction, et aussi la crédibilité. C'est-à-dire le regard que les gens portent sur vous au moment où vous allez dire quelque chose. Et en fait, on a tous déjà vécu ça. Si vous connaissez quelqu'un que vous estimez parce qu'il est spécialiste dans un domaine, parce qu'il est très sympathique, parce que c'est votre ami, parce qu'il dit toujours la vérité et qu'il ment jamais, quand il va vous dire quelque chose, vous aurez plus tendance à le croire que celui qui raconte toujours n'importe quoi, que vous aimez pas ou qui est votre pire ennemi. Et en fait, il y a des techniques qui permettent de manière très simple, quasiment instantanée même parfois, d'augmenter votre crédibilité auprès des gens à qui vous parlez, mais pas de manière illusoire, c'est pas de la manipulation, c'est simplement de mettre en avant votre crédibilité pour éveiller leur écoute et qu'ils aient un tout petit peu plus envie de vous écouter. Et forcément, vous aurez plus de facilité à convaincre quelqu'un qui vous écoute que quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter.
Et dites-moi, mon cher maître Philippe-Henri Honegger, justement, quand on a la crédibilité, on a besoin d'émotion. Vous dites qu'il faut toucher les cœurs.
Oui, l'émotion, c'est la deuxième clé. Elle est fondamentale. C'est-à-dire que une fois qu'on a ouvert l'attention des gens avec sa crédibilité, il faut ouvrir leur cœur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle parfois la synchronisation. Si on arrive à se synchroniser émotionnellement avec les personnes, ils auront envie de vous suivre sur le chemin de ce que vous avez envie de leur dire. Mais quand je parle d'émotion, ça ne veut pas juste dire raconter des histoires tristes et faire pleurer dans les chaumières. C'est simplement réussir à être suffisamment sincère, suffisamment authentique, suffisamment habité par ce qu'on dit, pour que la personne en face fasse un pas vers vous et se dise oh, « il a vraiment l'air d'y croire, il a vraiment l'air d'être dans l'émotion qu'il est en train d'exprimer ». Et s'il l'est, vous savez, l'émotion c'est quelque chose qui est très poreux, qui se communique énormément, s'il l'est, ça va se communiquer à l'autre personne, elle va se synchroniser avec votre émotion et elle va avoir envie d'aller là où vous allez et donc d'être convaincue. C'est un peu, vous savez, comme quand on baille, puis ça fait bailler l'autre, qui fait bailler l'autre, qui fait bailler l'autre. Et ben l'émotion, ça marche comme le bâillement. Ça se communique comme ça de personne en personne et ça ouvre l'attention des personnes pour qu'à la fin, vous puissiez effectivement délivrer votre message et qu'ils soient convaincus.
Dites-moi, maître, justement, quand on vous écoute attentivement, tout ça, on a besoin d'un mot. Un mot, c'est l'éloquence. L'éloquence, la voix.
Oui, alors, ça parle d'éloquence, ce livre.
Et vous en parlez dans votre livre, hein.
Oui, bien sûr. Parfois même, on réduit la rhétorique à l'éloquence. Alors que vous voyez, ce que je vous explique, c'est que la rhétorique, c'est plein d'autres choses que l'éloquence. C'est pas le fait de simplement bien parler. Mais surtout, ce que je dis dans le livre, c'est aussi pour que ça soit très accessible à tous. C'est que être éloquent, c'est pas forcément parler fort, regarder droit, avoir un air comme ça très péremptoire. Être éloquent, c'est en fait aussi être simplement sincère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très très éloquents, mais qui ont une petite voix, qui sont un peu timides. Mais parce qu'ils sont en phase avec ce qu'ils sont, et parce qu'ils arrivent à investir émotionnellement ce qu'ils ont envie de raconter, ça les rend très très éloquents. Et en fait, le travail de l'éloquence, c'est justement réussir de travailler avec soi-même, de se faire confiance, et de se dire... de ne jamais se dire, moi je suis pas éloquent, je suis pas fait pour ça. Non, en fait, tout le monde peut être éloquent à partir du moment où il arrive à se donner envie lui-même d'aller convaincre, à se convaincre lui-même qu'il peut convaincre, et on devient éloquent comme ça. Et je trouve que c'est aussi un message qui ouvre à tous l'idée que, vous inquiétez pas, tout le monde peut communiquer, tout le monde peut réussir à bien dire les choses, et faut pas vous brimer, parce que quand on a des choses à dire, il faut les dire.
Dernière question, mon cher maître Philippe-Henri Honegger. Justement, alors, quel conseil vous donnez à celles et ceux qui nous écoutent concernant votre ouvrage « L'argument qui tue » et je demande à tous celles et ceux qui nous écoutent que ça vaut le coup d'aller se le procurer aux éditions, donc on a dit...
Debuck
supérieur, voilà, absolument. Allez vous le procurer. Excellent ouvrage, L'argument qui tue. Quel conseil vous donnez, mon cher maître ?
Mon conseil, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ce que je raconte dans le livre, c'est que on n'est jamais aussi convaincant que quand on est convaincu. C'est-à-dire, quelque part, oubliez les techniques, oubliez la rhétorique, oubliez l'éloquence, oubliez tout ça. Allez chercher les idées dont vous êtes véritablement convaincu, les choses que vous croyez profondément en vous, interrogez-vous vous-même intimement, et quand vous aurez réussi à saisir ces idées, alors vous pourrez réussir à convaincre les gens. Je vous donne un exemple concret, vous êtes dans un débat sur un sujet, là ça peut être, vous savez en ce moment, la cause israélo-palestinienne, mais ça peut être autre chose, et puis les gens passent leur temps à s'insulter, à s'insurger, à dire des choses, à pas s'écouter. À un moment donné, peut-être simplement faire silence, s'interroger soi-même, c'est quoi le fond du fond de ce qui me convainc moi, qui moi m'anime véritablement dans la position qui est la mienne. Et une fois qu'on a identifié ça, qu'on est profondément convaincu de la chose, eh ben c'est ne dire que ça, ne parler que de ce dont on est convaincu. Et là forcément on sera convaincant parce qu'on est sincère, on est authentique, et c'est ça qui permet effectivement de convaincre à la fin.
Celui qui manie les idées, le langage de convaincre dans les tribunaux, il s'appelle Maître Philippe-Henri Honegger. Et allez trouver toutes ces techniques, l'argument qui tue. Maître Philippe-Henri Honegger, bravo mon cher maître, pour cet ouvrage évidemment. Allez vous le procurer, vraiment. Ça s'intitule L'argument qui tue. Bravo et bon courage et bon vent. Et puis je vous retrouve bientôt sur l'antenne alors.
Merci, bah j'espère. Dès que vous m'invitez, je viens.
Eh bien, grand plaisir. Vous savez que vous êtes chez vous ici. Hein. À bientôt.
Avec plaisir, je viens.
Merci, maître Philippe-Henri Honegger, l'argument qui tue. Direction la manifestation qui se déroule même en ce moment même à Cergy. Je parle de la manifestation pro-palestinienne. On est avec Florence Brault, qui représente l'association France-Palestine Solidarité. Florence Brault, bonsoir.
Alors, Adil, bonsoir, c'est Abdel Nitaj.
Ah oui, effectivement, c'est Alina, une voix masculine.
Oui, je suis avec Alina Boumediene, ancienne sénatrice et ancienne eurodéputée, donc qui veut bien prendre la parole.
Ah, on l'accueille avec grand plaisir.
Ouais.
Alima Boumediene, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Alima Boumediene, vous êtes ancienne sénatrice, ancienne eurodéputée, vous êtes avec nous en direct dans les informés sur BFM. Dites-moi, tout d'abord, vous participez encore à cette manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui à Cergy. Quelle a été la teneur de cette manifestation, ma chère Alima Boumediene ?
C'était un petit peu comme l'ensemble des manifestations qui ont lieu aujourd'hui un peu partout en France, mais aussi dans le monde. La solidarité avec le peuple palestinien, demander et exiger tout de suite un cessez-le-feu, arrêter le massacre qui est en train de se faire, et puis rappeler également que, on demande à ce que la justice se tienne. C'est-à-dire que d'un côté, on doit rappeler Israël aux résolutions du droit international qui ont été votées, et en même temps, peut-être voir comment, il n'y aura pas 50 solutions. Hein, avoir la paix sans justice, ce n'est pas possible. Et la seule justice, ça sera arrêter l'occupation et puis permettre le retour des réfugiés sur leur terre, tout simplement.
J'ai envie de vous poser la question, Alima Boumediene. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat délétère, de cette ambiance anxiogène, de ce conflit israélo-palestinien ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas ce risque ?
Ce n'est pas un conflit. Il faut arrêter, à mon sens, de dire conflit israélo-palestinien. Il y a une guerre aussi d'un État, Israël, contre un État occupé, colonisé, et qui est une guerre d'indépendance, qui est une guerre qui, refuse, qui est une guerre coloniale, tout simplement, hein, c'est-à-dire qui refuse cette occupation coloniale et qui, par cette résistance, exige la liberté de son pays et de son peuple.
Et on connaît votre engagement, effectivement, depuis bien avant que vous soyez sénatrice, on connaît vos positions et votre engagement.
J'étais la première.
Je sais, je m'en rappelle très bien, vous étiez déjà parmi les premières, évidemment, à porter cet engagement. Je vous repose la question, la guerre urbaine, elle a commencé, elle est déclarée, selon vous, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque que, évidemment, ces tensions rejaillir chez nous, dans l'Hexagone, Madame Alima Boumediene.
Il faut arrêter avec ce mythe. On va importer le conflit du Moyen-Orient. Déjà, qu'il faut savoir, les gens dans les banlieues, les jeunes en particulier, sont victimes de discrimination. Et comme toute personne qui vivent des injustices et également des violences policières, des violences d'un État, c'est-à-dire qui ne les reconnaît pas comme étant des citoyens, eh bien s'identifient. Ça ne veut pas dire qu'on a exporté, ça veut dire qu'ils s'identifient à un peuple qui lui-même se bat contre des violences et contre une colonisation. C'est une identification, c'est tout, ce n'est pas une exportation d'un conflit, d'une part. D'autre part, il y a aujourd'hui en France, en particulier, mais un peu partout, une montée tellement importante du racisme, en particulier d'une islamophobie, d'un sentiment anti-arabe, qui fait que automatiquement tous ces jeunes des banlieues se sentent directement concernés. Avec ce qui se passe en particulier en ce moment,
qu'est-ce que vous leur dites à ces habitants des quartiers populaires lorsqu'ils vous écoutent ce soir ? On connaît évidemment, on connaît votre nom, Halima Boumediene, on a encore cette résonance hein, lorsque vous étiez sénatrice, on connaît vos positions, on connaît votre engagement. Vous leur dites quoi ? Qu'est-ce que vous leur livrez comme message, Madame Halima Boumediene ?
Je leur livre le message que toute personne, engagée ne peut que livrer, c'est-à-dire oui, soyez aux côtés du peuple palestinien. Aux côtés du peuple palestinien, ça veut dire du côté de la justice, et en particulier, je veux dire, aux côtés de tous ceux qui aujourd'hui se battent pour leur indépendance. Ça, c'est très important. Bien entendu, tout cela doit se faire dans les règles, dans le respect des autres, sans violence particulière, parce que c'est eux qui vont se retrouver comme accusés. Hein, le prétexte est trop facile, être accusé d'être les agresseurs.
Eh bien, grand...
Ce n'est pas vrai.
Grand merci, Halima Boumediene. On doit lancer la pub, hein, c'est pour ça que je me presse.
D'accord.
Halima Boumediene, un grand merci à vous d'avoir été avec nous dans les informés sur Beurre FM. Bonne manif, si elle continue encore, vous êtes à Cergy.
Oui, continue.
Eh ben, écoutez, bon courage et à très bientôt sur l'antenne.
À bientôt, pourquoi pas. Quand vous m'invitez, je venais.
Avec grand plaisir, 19h16. On marque la pause et on se retrouve tout de suite après avec les débattants influenceurs. À tout de suite.
19h20, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. 19h20, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et c'est parti, vous le savez, 19h23, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Bonsoir Jimmy Dalidou.
Bonsoir tout le monde.
Représentant syndicat, CGT, mais également auteur, tout va bien ?
Toujours.
À vos côtés, c'est un élu qui a fait ses preuves, ça y est. Hein, il est devenu titulaire.
Merci Adil.
Guillaume, ça va ?
Merci de me réinviter, merci pour ce terme titulaire. Bonjour aux auditeurs.
Élu avec le juif, pacifiste, quoi d'autre ?
Artiste et,
j'ai oublié votre nom de famille.
Et citoyen engagé, ouais. Guillaume Dussouy.
Ouais,
voilà. Nous, c'est mon nom d'artiste, j'ai Des Nous. Si les gens veulent me trouver sur les réseaux sociaux, c'est plutôt là qu'ils trouveront ce que j'ai à dire.
Un artiste. Un journaliste, rédacteur en chef d'Opinion Internationale, c'est Radouane Korak. Bonjour, bonsoir Radouane Korak.
Bonsoir Adil, bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Carton avec le billet d'humeur, hein, bravo. Hein.
Bah, très content que ça vous ait plu et que ça ait plu aux auditeurs.
Ouais, passage à la radio, boum, hein. Ça plaisante pas. Hein.
Écoutez, très content que ça vous ait plu.
Bah, écoutez, bravo. Messieurs, tout de suite, le premier sujet. Les manifestations pro-Palestine, vous savez quoi, elles se multiplient, elles sont fréquentes dans plusieurs villes, pas qu'à Paris. Sauf que l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne, elle, dans certaines pays, et notamment à Paris, elle est souvent, vous savez quoi, validée, cette interdiction par la justice. Parce que le préfet de police redoute, vous savez, des débordements, il redoute plein de choses. Alors, quel est votre... Vous savez, c'est délicat parce que beaucoup bravent l'interdiction, décident, par exemple, ce week-end, de s'y rendre et de manifester. Ont-ils le droit ? Beaucoup se sont pris des amendes. Aujourd'hui, certains sont perdus, ils ne savent plus du tout, évidemment... On a bien noté, évidemment, vous savez, cet événement des Gilets jaunes où beaucoup ont été encore marqués hein, par cette période.
La pression.
Alors, la pression, mais surtout cette période qui a beaucoup choqué, traumatisé certains. Mmh. Jimmy Dalidou.
Oui, non, plusieurs choses. D'abord, c'est inadmissible que les Français n'ont plus le droit de manifester, quelle que soit leur orientation politique, quelles que soient leurs idées.
Ça va faire débat, je le sens.
Mais bien sûr, mais il est interdit d'interdire. Il est interdit, et qui plus est, d'interdire une manif. Maintenant, vous savez, une manif, moi ça fait 22 ans que je milite, donc des manifs, je ne les compte plus, mais vous savez, une manif, quelle que soit la manif, quelles que soient les revendications que vous mettez en exergue, quelles que soient les revendications, c'est toujours un acte politique. Toujours. Une manif, c'est d'abord un acte politique. C'est pour ça qu'en général, une manif, il ne faut pas l'interdire. il faut écouter les revendications, il faut les mettre en contradiction, il faut débattre, il faut discuter, il faut créer de la polémique dans une certaine mesure, il faut en discuter. Mais interdire une manif, c'est d'abord une défaite politique. Le gouvernement, en interdisant les manifs, c'est d'abord une défaite politique parce qu'il sait très bien que face...
C'est une faute politique ?
Bah bien sûr que c'est pas une faute politique parce qu'on connaît leur orientation de classe à ce gouvernement.
Mais
ils ont toujours la même orientation de classe. Ils l'avaient déjà lors des Gilets jaunes. Moi, je m'en souviens, tous les samedis, j'étais avec les Gilets jaunes et je vais vous dire, les LBD, on les a vus défiler autour de nous. Donc, ils démontrent qu'en fait, on connaît leur ligne politique.
Vous êtes d'accord avec celles et ceux qui bravent justement l'interdiction ?
Je suis toujours avec celles...
Braver, c'est se comporter de façon frontale ou frontale.
Et qui mettent en avant un acte politique fort qui se présente sous forme d'une manif.
Bon, on peut pas citer les gens.
Le gouvernement interdit une manif, il est faible, il n'est pas capable de mettre en avant un argumentaire politique qui irait contre les revendications mises en exergue dans les manifs.
J'entends ton point de vue, Jimmy, mais on a l'impression à t'entendre que tu incites les gens à aller manifester. On peut pas
Non, j'incite les gens à développer leurs idées.
Ouais, mais on peut pas inciter les gens à aller manifester, à enfreindre la loi et ainsi à se prendre une amende de 135 €.
C'est important ce que vient de dire Jimmy.
En réalité, ces manifestations sont interdites, il faut se poser une question.
Ouais. Après, je donne la parole à Guillaume Dessouy.
Moi, je suis légaliste. Le Conseil d'État a tranché et a dit de faire du cas par cas. L'interdiction initiale d'Armanin, elle était scandaleuse. En réalité, oui, il faut faire du cas par cas. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les signaler et il faut les interdire. On ne va pas se leurrer. Adil, vous le savez, très souvent, je vais sur le terrain, je réalise des reportages pour Beurre FM, pour cette radio que je rediffuse sur les réseaux sociaux.
Et pour Opinion Internationale,
évidemment. Toutes ces manifestations, je vais sur le terrain, je vois comment ça se passe. Les manifestations pro-israéliennes se passent bien, les manifestations pro-palestiniennes, et là, ça se passe mal. On entend des insultes
antisémites.
Vous allez vous faire déchirer par les auditeurs,
Radouane Courac.
Ça te dit quelque chose,
Ali ? Toutes les manifestations pro-palestiniennes se déroulent pas mal.
La LDG, le BEDAR, c'est deux organismes que je condamne.
La LDG, ça se passe pas toujours aussi bien.
La LDG dans les manifestations pro-israéliennes. Quand la LDG dans les manifestations pro-israéliennes et qu'elle a un comportement répréhensible, je le montre, je le signale.
Donc pour toi, les Palestiniens n'ont pas le droit de manifester, mais les Israéliens ont le droit de manifester.
Les Palestiniens ont le droit de manifester, on a le droit de soutenir la Palestine, on a le droit de soutenir Israël aussi, mais c'est dans les manifestations pro-palestiniennes qu'on entend des insultes antisémites. Dans les manifestations pro-israéliennes,
j'étais assez du Trocadéro. C'est clairement une position macroniste.
Ma position, c'est une position journalistique. Non, je relate des faits. Je vais dans les deux manifestations, je te raconte ce que je vois.
À mon avis, tous les journalistes n'ont pas la même position que toi.
Ouais, mais tous les journalistes.
Il a son avis aussi.
J'ai mon avis.
Voilà. Guillaume Dessouy, alors qu'est-ce que vous dites-vous ?
Moi, je dis.
Échange intéressant, effectivement.
Je dis une manif, c'est plus qu'un acte politique, c'est un espace politique. Et dans cet espace, il y a la possibilité de débattre. Les manifestants, ils vont aussi sur place pour se rencontrer. Ils vont aussi là pour échanger des idées. Ils vont aussi là pour s'éduquer. Et si on enlève tous ces espaces, si, soi-disant, on les sanctionne de façon préventive pour éviter des heures, eh ben on interdit aux gens d'évoluer.
Et qu'est-ce que vous dites, 1400, Guillaume, mon cher Guillaume, 1487 personnes verbalisées ce week-end.
1487
manifestations pro-palestiniennes à Paris, toutes les manifestations, 1487 personnes verbalisées.
Ils ont des charters déjà.
Pardon, Jimmy, je suis venu avec un petit document qui m'a été envoyé dans le cadre des échanges entre pacifistes à Nevers. Le préfet de la Vienne écrit ceci dans son arrêté, parce que je ne lis pas tous les arrêtés, mais là, il y a quand même quelque chose à retenir. Deux phrases qui sont retenues par les gens du mouvement de la paix sur une manif pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, la base de ce qui se dit dans les collectifs. La tenue d'une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue en elle-même une atteinte à la dignité humaine. Considérant qu'il y a manifestement une volonté de dissimuler le véritable objet de ce rassemblement, dont l'objet n'est pas la promotion de la paix en Israël et en Palestine, mais vise à provoquer ou à légitimer des actions de nature terroriste. Qu'est-ce que c'est que ces façons de préempter le débat de la part de l'autorité publique et de créer les conditions qui font
qu'est-ce
que les gens...
Qu'est-ce qu'on répondait à quel élu? Qu'est-ce qu'on répondait à l'élu? Qu'est-ce qu'on lui répondait?
Encore une fois, c'est pas les manifestations. C'est pas les manifestations qui posent problème, c'est les manifestants. C'est pas les manifestations qui posent problème. En France, il y a des manifestations.
C'est ce que tu dis.
La manifestation pro-palestinienne...
Que les Français en colère ne sont...
La manifestation pro-palestinienne de Belfort a été maintenue. Pourquoi? Parce que les gens se comportent très très bien à Belfort. En Ile-de-France, hélas, on a vu qu'il y a eu des dérapages. Le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de garantir la sécurité et la sûreté intérieure. S'il juge qu'il y a un risque quelconque, il avise. Et donc, il interdit ces manifestations. En Ile-de-France, moi, j'étais dans ces manifestations quand on entend mort aux juifs. Tu condamnes quand on entend ce type d'insulte ou pas? Ce type d'attaque, Jimmy?
Non mais
Jimmy, tu condamnes ou pas?
Tu m'as posé une question
sur la LZG,
en fait, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle du sophisme. Et cette technique-là, on la connaît bien. C'est-à-dire que tu vas extraire une erreur qui a été mise en exergue dans la manif.
Je suis dans le factuel,
tu
es dans l'émotionnel.
Une généralité, tu vas pas me la faire à moi. Donc
moi, je suis dans le factuel, tu es dans l'émotionnel.
Déjà, une manifestation, encore une fois, on n'interdit pas une manifestation. Parce qu'une manifestation, quelles que soient les manifestations, c'est... un acte politique.
Non, la deuxième chose, de tout.
Lorsque tu observes la forme des manifestations, le phénomène de NAS, je te rappellerai que la NAS, par exemple, et les différentes façons de réprimer les manifestations, la répression provenant des forces de l'ordre a été théorisée ces derniers temps par les différents
préfets. La police a le monopole de la violence légitime.
Et qui s'assurent toujours dans le même sens, c'est-à-dire énerver les manifestants, les court-circuiter dans le développement de leurs idées, dans le développement de leurs actes politiques, pour les énerver, les pousser jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait lors des Gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont fait lors du mouvement contre la loi travail, lors du mouvement contre les réformes des retraites, c'est-à-dire qu'on
Guillaume
excite les subjectivités et on empêche le développement de la conscience.
Moi, je vais être très clair. Hein. L'argument de Radouane, c'est il n'y a pas de problème avec l'humanité, il y a des problèmes avec les cons. Et c'est pas un argument. Le seul espace dans lequel on va pouvoir discuter avec quelqu'un qui dit mort aux juifs, c'est dans une manifestation.
Ah, non, moi je
si
ne tolère pas.
On ne le voit jamais.
N'est pas une opinion,
si il est
c'est
toujours dans son coin. Sa petite haine devient systémique et sa petite haine devient un mouvement fasciste. Et là, on a un très gros problème social. Donc, le problème, c'est pas ce que tu dis. Le problème, c'est que en voulant empêcher quelque chose, on crée quelque chose de pire.
Je vais être très clair sur la question.
Guillaume Dessouy.
Je vais être très très clair sur la question. Moi, je considère que le Hamas est une organisation terroriste, mais que Benjamin Netanyahu mène une politique criminelle. Les Palestiniens ont
terroriste.
Droit. C'est du terrorisme d'État. C'est une armée équitable. Les Palestiniens ont le droit à un État. Ils ont le droit à leur liberté. Et c'est totalement normal de le dire sur cette antenne. Mais ce qui attise la haine.
Netanyahu, il fait ce qu'a dit Pasqua.
Ce qui attise la haine aujourd'hui, ce sont les pro-palestiniens. Pas tous les pro-palestiniens. Tous les pro-palestiniens n'attisent pas la haine, mais tous ceux qui attisent la haine aujourd'hui sont pro-palestiniens. C'est la nuance.
Et bon, on se retrouve dans une polémique. On se retrouve, s'il vous plaît, messieurs.
Sur les réseaux,
oui,
comme dans les manifs.
On marque une pause. C'est très intéressant l'échange, évidemment, auquel on est en train d'assister. On marque une pause. On se retrouve pour clore ce sujet. Et je voudrais qu'on parle, vous savez, de ces actes antisémites. Ils sont 819. Mais quelle est la teneur de ces actes antisémites? Est-ce que certains franchissent le pas? On en parlera. Et puis, surtout, ce que je voudrais, messieurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque, Alima Boumediene disait non tout à l'heure, de dire arrêtons de parler, de dire que ça va être importé chez nous, ce conflit israélo-palestine. Eh bien, je voudrais vous entendre aussi. 01 53 48 3000, les auditeurs. Je voudrais vous entendre, partout en France. Vous êtes en train d'écouter les uns et les autres. Venez livrer votre opinion. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les auditeurs ont la parole tout de suite, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Venez donner votre opinion concernant les manifestations pro-palestiniennes, parfois interdites, effectivement, à la fois par la préfecture, mais également aussi par la justice. Venez donner votre opinion. Qu'en pensez-vous, justement, 01 53 48 3000 Radouane Courac est avec nous. Jimmy Dalidou est avec nous. Guillaume Dessouy est avec nous. Messieurs, vous vouliez prendre la parole, Jimmy Dalidou, avant d'emprunter le chemin de celui du ministère de l'Intérieur.
Ouais, non, juste pour dire que il faut faire attention au fait que de trop d'accepter ce qui est inacceptable. C'est-à-dire à partir du moment où...
Vous adressez à moi ou à Redouane?
Non, surtout à Redouane, parce qu'il disait qu'il fallait interdire certaines personnes dans les manifestations. Encore une fois, il ne faut pas confondre radicalisation et conscientisation. Parce que souvent, s'il y a confusion
Redouane,
entre...
de ce que j'ai compris, c'est l'autorité.
Ouais, non, mais...
Pas
quand on est conscientisé, quand on est conscientisé, c'est-à-dire lorsque votre conscience politique, lorsque votre expérience politique, votre expérience de la vie progresse, à un moment,
ce que j'ai fait,
vous mettez en avant,
vous avez
une exigence de débat, une exigence
parfois,
politique.
Parfois, je sollicite nos auditeurs qui interviennent.
C'est pas une radicalisation.
S'il vous plaît. Parfois, je sollicite nos auditeurs qui interviennent comme ça, justement pour voir qui a raison, qui n'a pas raison. Eh bien, on va aller direction Montpellier. Pas mal d'appels. Tiens, Montpellier. Bonsoir, Montpellier. Bonsoir, Karim.
Bonsoir,
vous nous appelez de Montpellier. Bonsoir. Une ville que je chéris, Montpellier. J'aime beaucoup cette ville.
Moi aussi.
Ah, j'aime beaucoup cette ville. Je kiffe cette ville, grave. Non, mais c'est vrai, elle est belle, Guillaume.
Elle est magnifique, cette ville.
Ah ouais. Faut dire merci à Georges Fraisse. Hein. Attention, il est mort.
Ah
mais...
oui.
Ah, l'ancien maire de Georges Fraisse.
C'est lui qui a tout construit.
C'est lui qui a tout fait.
Sûr.
Je dois le dire, c'est un grand monsieur. On vous écoute, Karim. Vous assistez à ce débat parfois houleux entre Redouane, entre Jimmy, Guillaume. Vous savez, ça clash. Hein. Vous dites quoi, vous, Karim?
Ah ouais. Ben moi, je vais vous dire tout simplement pourquoi nous, les musulmans de France, on ne parle pas du tout. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir notre bouche, on va nous accuser de terrorisme, d'apologie du terrorisme. C'est pour ça que les gens ne se manifestent même pas. Ouais. C'est juste parce qu'ils ont peur de ça.
Redouane,
de catégoriser, fiche S, machin et tout.
C'est vrai ça?
C'est pour ça que les gens ne veulent plus.
Attendez, Redouane, courant que le journaliste va vous répondre. Attendez,
il vient de dire un truc intéressant. Il a parlé de fiche S.
Parlez-lui.
Il faudrait peut-être créer une fiche M. C'est-à-dire recenser tous les actes déplorables dans les manifestations. Parce que moi, je
Après, il y aura la fiche X et la fiche Y.
Parce que moi, je le dis, je maintiens ma position. La problématique, c'est pas la manifestation, c'est les manifestants.
La problématique, c'est la problématique chinoise.
Belfort, Rennes, Lyon, toutes ces villes, les manifestations sont très très bien passées. Les manifestations pro-palestiniennes, elles sont majoritairement interdites en Ile-de-France.
Qu'est-ce que vous répondez à Karim? Ouais. Karim, il vous dit oui, mais ils ont peur de...
Non mais arrête,
Karim,
il est pour le bien des citoyens.
Karim,
dis un truc important. Karim, moi, je pense qu'ils n'ont pas peur.
Mais Karim, dis un truc... C'est vrai que les Français, moi, je parle plutôt de Français musulmans, sont...
De confession musulmane.
C'est faux, j'ai jamais
les
été victime
de confession musulmane sont devenus des boucs émissaires en France. Et vous savez pourquoi? Parce que les gouvernements veulent empêcher leur émancipation politique.
Mais non, mais c'est
là la réalité.
C'est ce discours-là.
Moi, je vais vous expliquer quelque chose.
Karim de Montpellier, Karim.
Attendez. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je suis né en France. Ma mère est née en France. Mes enfants sont nés en France. J'ai jamais été en Algérie.
Quatrième génération. Quatre générations.
Voilà, moi je suis né en 1985.
Vous êtes jeune, hein?
J'ai jamais allé en Algérie de ma vie, machin. J'ai aucun lien là-bas, j'ai pas de famille là-bas. Nous, notre terre, c'est la France, moi. Moi, mes gamins,
ils sont
français.
Vous êtes français.
Attendez-moi la question qu'ils m'ont posée, mes gamins. Hein, ils m'ont dit, mais papa, quand vous allez mourir, toi et maman, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Pourtant, ils sont jeunes, ils se sont posé la question. Ils ont dit, mais tu vas te faire enterrer où? J'ai dit, mais notre terre, elle est ici. Notre patrie, elle est là. Notre terre, elle est ici. Je comprends pas qu'on nous fasse toutes sortes de machins contre nous. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils commencent à nous utiliser. Ça va faire comment, boss? Voilà.
Ça, c'est une autre problématique. Voilà, en réalité, c'est une problématique.
C'est une problématique de
tourmente identitaire. Je suis dans la même situation que vous. L'immense majorité des Français, par exemple, d'origine maghrébine, j'en fais partie, je suis de confession musulmane. L'immense majorité, aujourd'hui, ne savent pas où ils habitent. En France, on leur dit, vous n'êtes pas français. Quand ils vont en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on leur dit, vous n'êtes pas algérien. Donc, c'est des gens qui ne se sentent chez eux nulle part. Mais.
Pas vrai, on s'éloigne du sujet.
Non, mais c'était important d'introduire pour répondre. Mais la réelle problématique, personne ne stigmatise les musulmans. Se stigmatise tout seul parfois. Il faut d'abord se sentir français et ensuite musulman et non musulman
mais on se sent
et
français.
Mais Karim,
écoutez-moi, moi je suis passé par mille trucs.
Mais Karim, de quoi complexez-vous? Rendez-vous dans ces manifestations. Vous semblez être un homme respectable. Mais allez-y.
Non. Faut pas changer. Moi je complexe pas. C'est que le problème, c'est que partout où on va, on est montré du doigt comme le français.
C'est faux.
Attendez. Comme les gens autour, ils sont tous hypocrites, hein, Alors ils font comme si de rien n'était. Mais on les voit les trucs, on n'est pas des fous. On a grandi avec ça, moi toute ma vie j'ai grandi avec ça.
Il y a l'élu qui veut vous répondre, Guillaume Dessouy. Guillaume Dessouy veut vous répondre, l'élu.
Moi quand Karim dit j'ai grandi avec ça, je l'entends complètement. Et je le retrouve dans ce que dit le préfet de la Nièvre. Une volonté de dissimuler le véritable objet. Il y a de plus en plus de gens qui disent que le 7 octobre, c'est le nouveau 11 septembre. Et en fait, ce à quoi on est en train d'assister, c'est à 20 ans d'échec, 20 ans d'échec de la part d'une police de la pensée, de la part de problèmes liés
on est en France, on n'est pas arrivé dans les années 60, ça fait des siècles, il faut revenir à l'histoire, ça fait des siècles qu'on est en France. Ça fait échec.
De problèmes liés au budget de l'État, au choix de l'État. Ouais. L'État a décidé de terroriser les terroristes, comme Netanyahou. D'instaurer de la terreur partout en France. Elle se retrouve dans le témoignage de Karim. Parce que Karim, il a peur de dire qu'il pense et qu'il est un être.
Qu'est-ce que vous dites, Karim?
La plupart de ces gens, ce n'est pas des gens qui sont intelligents. Les gens qui sont vraiment des terroristes, je ne crois pas qu'ils iraient prendre comme ça un machin et se faire péter. Non. Ils prennent des déséquilibrés. C'est des gens qui sont pris, qui sont à moitié déséquilibrés dans leur vie, qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais quitté le territoire national et qui passent à l'acte. Malheureusement, à la télé, on nous dit ouais, mais. Non, c'est des gens qui connaissent, qui ne font pas la prière. Un vrai musulman, il ne fait pas ça. Alors c'est pas vrai.
Oui, rappelons-le, à la base de la religion, il y a l'amour du prochain.
On s'éloigne un peu du sujet, même si je vois par ricochet, il y a des liens. Karim de Montpellier, on a pas mal d'appels. Il faut que, évidemment, j'en accueille encore quelques-uns. Karim, je dois dire que votre opinion et votre témoignage, vous honorez plus beaucoup le partage. J'entends ce que vous dites. J'espère à très vite sur notre antenne pour qu'on puisse en parler exclusivement. Ça vous va ?
Ok, il n'y a pas de souci.
Et merci d'être intervenu.
Bonne soirée, Karim.
À bientôt.
Abdel, vous nous appelez d'où, Abdel ? Bonsoir, Abdel.
Et bonsoir, c'est Abdel Salamitash.
Salamitash. Comment ça va, Abdel ? Alors, vous étiez à la manif, vous ?
Oui, j'étais à la manif et en fait, je voulais juste faire un retour sur cet événement qui ne prenait que la paix entre les peuples. Nous avions des gens de différentes confessions religieuses, des gens qui ne croyaient pas aussi et qui croyaient en l'humain et qui croyaient justement en la paix. Et je voulais juste témoigner de tout ça et dire qu'il est possible d'avoir deux États voisins qui vivent en paix l'un à côté de l'autre et c'est bien de le rappeler. Pourquoi il faut se battre.
Et c'est bien de le rappeler. Merci en tout cas pour l'intervention. Et effectivement, c'est la paix qui doit primer, évidemment, en dehors de tout. Dites-moi, on avance, à demain. On avance, Jimmy Dalidou.
Juste un truc très rapide pour dire qu'en fait, je reviens finalement, c'est un pont, c'est un corrélat vers le sujet de discussion qui est fondamental, qui est la culture, en fait. Il faut arrêter de dire que la culture, il y a une culture qui doit prioriser, qui doit s'inféoder toutes les autres cultures, comme si que un peu comme le vampire suce le sang de tout le monde. Non, c'est le multiculturalisme qui est très riche pour la France d'ailleurs.
Alors, on a trois minutes s'il vous plaît, et je dois impérativement parler, vous savez quoi, du ministre de l'Intérieur qui dénombre 819 actes.
C'est l'une des conséquences.
Antisémistes. Alors, tenez, à vous la parole.
C'est l'une des conséquences de toute cette haine qui est notamment apparue sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens.
Pas seulement.
Ça se radicalise de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Vous savez, c'est une nouvelle
spécialité.
On est passé de la lutte pro-palestinienne à la haine du juif. Les gens aujourd'hui.
Non, mais là,
L'immense
majorité de ces actes antisémites font un parallèle avec le conflit antisémite. Tous les gens qui défendent la Palestine ne sont pas antisémites. Mais l'immense majorité de ces actes antisémites. Mais j'ai regardé le rapport. Toutes ces insultes, toutes ces attaques parlent du conflit israélo-palestinien. Donc c'est important de sourcer, de savoir d'où l'on part.
Attendez.
Il y a Guillaume d'abord. Guillaume Dessouy, s'il vous plaît.
On les condamne. La haine qui est en train de véroler notre société, c'est d'abord la haine du terrorisme. Et cette haine du terrorisme, elle vient de notre échec. Notre échec à tous. C'est-à-dire que ça fait 25 ans 28 ans maintenant en France qu'on vit sous Vigipirate. Ça fait 20 ans, 22 ans qu'il y a eu les attentats du 11 septembre. En 1999, l'ONU adopte la culture de paix et demande à l'ensemble des États de faire des plans d'investissement. Ce qu'on a vu, c'est que les États ont dépensé 30 000 milliards pour alimenter la haine avec la violence, les violences d'État. Et de l'autre côté, il n'y a rien eu pour l'éducation, rien eu pour la culture.
L'antisémitisme est un poison, mais malheureusement, c'est un poison qui a été distillé par des petits satellites politiques qui ont intentionnellement semé confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Mmh. Alors évidemment, moi je suis antisioniste naturellement.
C'est quoi le sionisme? L'antisémitisme
est un poison. Et c'est là tout le problème. C'est que, et je prendrai un exemple tout simple.
C'est quoi le sionisme, Jimmy?
Laisse-moi terminer. Une majorité de juifs d'Israël sont contre la politique d'extrême droite de leur gouvernement.
Je vous propose.
Vous allez revenir, si vous pouvez. Non, mais attendez, on va reconduire ce débat. Il est intéressant. Il est même, c'est pas intéressant. Il est primordial, essentiel et très
fondamental.
Important. D'accord ? Fondamental, bien sûr. C'est des synonymes, donc on peut évidemment aller comme ça. On va reconduire ce débat, messieurs. On va le reconduire. Merci à Radon Kourak.
Merci, mon cher Adil.
Non, parce que c'est passionnant. Merci à Jimmy Delicou.
Merci à tous.
Merci à Guillaume Dessouy.
Merci.
Faut revenir. Non, mais j'ai besoin de reconduire ce débat parce que je peux
et
pas.
Merci, Beurre FM. Cette...
Absolument. Merci à tous celles et ceux qui sont nombreux, évidemment, chaque soir. J'ai pas pu passer tout le monde, mais on met ça demain. Demain, évidemment, avec autant de plaisir. 20-21, c'est Bilal Nedman, Time Sport. À la réalisation, Solalou, c'est Solal. Merci à toi, Solal. À demain. Avec autant de plaisir, vous le savez. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait ?
On ne lâche rien !
On ne lâche rien.
On lâche rien.
À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.